écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule.
Bonsoir, kia ora, good evening, vous êtes sur Planète FM et en fait sur Amuse-Gueule, l'émission francophone et francophile sur Planète FM.
Oui.
Bonsoir, nous sommes dimanche le 6 mai, hein, c'est ça? Ça passe vite le temps.
Oui.
Ouais. Bonsoir Blandine.
Bonsoir.
Blandine qui s'essaye à la techno, qui pousse les boutons et tout ça, qui me regarde en souriant.
Ok, c'est heureusement qu'il y a Anne-Sophie encore à côté de moi.
Anne-Sophie à côté, c'est
bonsoir.
Anne-Sophie. Bonsoir. Et puis David à l'appareil. Une petite émission sympathique, on n'est que trois, donc on va se faire ça sympa. On passera quelques musiques, comme d'habitude. On va parler de Body Worlds, qui est une exhibition qui se passe en ce moment.
Exposition.
Exposition, pardon. Exhibition.
Ça commence.
Bon, c'est un peu exhibé, hein, en fait.
Oui, c'est vrai, on est d'accord.
Je vais vous en parler
un peu plus.
Ouais. Donc, c'est au Hilton en ce moment, en ville, en centre-ville. Et puis, je vous passerai quelques musiques de jazz. Anne-Sophie a choisi d'autres musiques qui m'ont l'air très sympas. Malik Judy et Blandine vous a choisi un livre, L'homme qui...
Prenez sa femme
pour un chapeau d'Olivier Sacks et Oliver Sacks, pardon. Et puis ben voilà, puis on passe une bonne petite heure ensemble, ce sera ça de bien. Qu'est-ce qu'on a prévu comme petite musique d'intro, Anne-Sophie?
Ben alors je vais vous passer une chanson de Malik Judy. Je vais vous passer plusieurs chansons de son album ce soir. Artiste français de Poitiers, 37 ans, d'origine algérienne et vietnamienne. Donc très intéressant. Il est dans la lignée des artistes de Vincent Tellier, pour vous donner un peu une idée. Donc là, je vais vous passer The American. Donc il chantait en anglais avant, mais maintenant, avec ce nouvel album qu'il a sorti en octobre 2007, il chante en français.
2007 ou 2017?
2017, pardon. Oh là, bah oui, bah...
Le temps passe vite.
Voilà, donc Malik Judy, The American.
Did it work too?
Voilà, voilà, c'était Malik Judy, son premier. Judy, ça s'appelle D-J-O-U-D-I, Malik M-A-L-I-K. C'est parce que j'aime bien appeler les choses. On mettra ça sur le, sur, pas sur le blog. Oui, en passant, on vous annonce qu'on a arrêté un peu le blog, mais on a toujours Facebook, on a commencé un Instagram.
Et Twitter.
Et Twitter. Donc,
on est partout, partout. On... Et on est toujours sur...
Au Mixcloud, bien sûr, vous voulez nous réécouter, et sur Planète FM, si vous voulez nous réécouter. Il y avait d'autres annonces, les filles, que du week-end dernier. On a eu notre réunion trimestrielle, donc qu'est-ce qu'on a.
On va avoir un petit déjeuner d'Alliance française, mais ça vient dans pas mal de temps, ce sera en juin, on vous en reparlera d'ici.
Bon, c'est,
d'ici
un, c'est dans un mois et demi, ouais. Voilà. Dans un mois et demi, non, petit déj.
Autant en reparler à chaque émission.
Oui, oui,
hein.
Tout à fait.
Joignez-nous, on va vendre des livres, on va vendre quelques trucs, mais aussi. Un peu à manger, à boire, donc venez. Et vous, on parlera français, donc si vous avez envie de, d'exercer votre, le langage,
on fera un petit quiz, Blandine.
Oui, ah, oui, 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 moi je suis partante pour un petit... J'aime bien faire des quiz. Hein.
Bon. Ouais. Tu veux parler en premier ou tu veux que je parle en premier?
Je préfère que tu parles en premier.
D'accord. Alors, je reviens de l'exposition Body Worlds, qui est au Hilton, Auckland, en centre-ville, juste sur les quais. Et... Bon, c'est pas que j'étais pas préparé, mais il y a beaucoup de gens qui y vont. Hein. Il y a la queue, il faut le dire. C'est assez bien organisé. On peut aller en ligne pour acheter les tickets, mais en fait, on n'achète pas les tickets. Il faut quand même aller au guichet pour les prendre. Par contre, l'avantage de les acheter en ligne, c'est que on fait pas deux fois la queue parce qu'il y a un système de queue. Et il y avait, si vous y allez, je vous invite d'y aller en semaine. Parce que là, c'est dimanche, il faisait assez beau et il y avait là toutes les 30 minutes. Donc, ça commence à 10h du matin, ça finit, je crois, à 5h du soir. Et toutes les 30 minutes, ils font rentrer 200 personnes, j'ai l'impression. Et il y a la queue jusqu'au le wharf, le port est plein. Donc, on a fait la queue. Nous, on avait prévu la session de 2h30. On était là vers 1h40. Et donc, ça fait 50 minutes de queue. Il y a des prix de groupe parents-enfants pour 4, c'était $75. Donc, sinon, l'unité, c'est un petit peu plus cher que ça. Si vous voulez, vous y allez qu'à 1, je crois que les adultes, c'est 28 et les enfants, 25. Quelque chose comme ça. Donc, une petite ristourne si vous avez deux enfants, deux parents. L'âge, Blandine me disait, il y a peut-être un âge où il ne faut pas. Oui, j'avoue que ma fille de 6 ans s'est passée un peu au-dessus de sa tête, mais. Tous les musées, ça passe au-dessus de sa tête. Donc, que ça soit de la peinture, de la sculpture, même une bibliothèque. Bon, la bibliothèque, non, parce qu'elle va lire des dessins, des trucs pour enfants. Mais, donc, 6 ans, oui, c'est un peu jeune. 7, 8 ans, encore un peu jeune. 10, mon fils de 10 ans, bientôt 11, pile poil, c'est déjà le bon âge. Parce que il faut dire, j'ai appris ça en regardant ce soir ce qui se passe dans cette exposition. C'est en fait une de quatre expositions dans le monde entier que Body World fait. Donc il y a une qui s'appelle RX. Ils sont qu'une la biologie, la physiologie du corps humain. Celle qui est à Auckland, ça c'est à Toledo dans les USA. Et celle qu'on a ce soir, c'est Vital. Donc ça c'est à Auckland et Vital c'est vraiment célèbre le potentiel humain, mais surtout le côté organes, la peau, les intestins, donc tout, et les cinq sens en fait, et surtout le côté sportif, c'est-à-dire que les exemples de corps sont mis dans des positions sportives. Il y a un nageur, il y a un athlète, un coureur, un danseur, etc. Il y a deux rugbyman aussi, donc ils mettent les corps dans des positions. Et puis après, quand il y a des dissections, du genre le foie, tout ça, c'est vraiment côté, comme le titre, du côté, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Donc en fait, si vous êtes fumeur, vous allez vous prendre plein la tête, parce que il y a plein d'exemples de poumons, comment on dit, le foie. Donc il y a un foie en bonne santé, un foie en mauvaise santé. Surtout si vous êtes fumeur, une jambe de fumeur, une jambe normale, etc., etc. Donc les dissections sont pas très choquantes parce que c'est pas. Blandine me fait part d'une de leurs expositions qui est interdite en France. Mais à mon avis, ça m'étonne pas. J'ai vu dans un des bouquins qu'ils vendent. Qu'il y a des dissections un peu plus choquantes où il y a un bébé mort-né, il est dans le ventre de la maman. Donc, à mon avis, mais celle-là, cette exposition-là, il y a honnêtement, il n'y a rien de choquant. Il n'y a même pas. C'était assez bizarre d'ailleurs, parce que c'est une progression. Donc on commence par les muscles. Après, on commence par les os, donc le squelette. Après, on fait les muscles. Après, on fait le système sanguin. Après, on fait les organes internes, donc poumons, tout ça. Donc c'est pas un labyrinthe, mais ça, c'est comme un grand zigzag, un grand serpent. Donc et c'est pour ça que les entrées, c'est toutes les 30 minutes. On comprend comment ils font pour arriver à prendre autant de gens. C'est-à-dire que c'est un parcours, et tout le monde, il y a des trucs interactifs, mais pas vraiment. C'est surtout donc des corps entiers, d'hommes ou de femmes, et dans des positions. Et puis à côté, des petits ateliers où il y a des dissections. Mais surtout, tous les panneaux d'explication, c'est surtout... si vous faites du sport, que vous mangez léger et que vous fumez pas, buvez pas trop d'alcool, vous allez être mieux, vous allez vivre plus longtemps, machin. Beaucoup de choses sur aussi le stress, le côté comment se déstresser. Mais en fait, c'est un truc pour. C'est vraiment c'était le côté didactique pour les petits comme pour les grands. C'est faites du sport, mangez moins, mangez mieux. Donc c'est pour ça, pour moi. Cette exposition-là, je ne l'ai pas trouvée trop cabreuse. Mmh. Je m'attendais à des choses plus cabreuses. J'ai fait, dans les années 90, j'ai fait un pèlerinage en Chine. Et la Chine était très forte dans les années 90 pour nous montrer... comment les Mongoliens et les autres barbares, bon, les Européens et tout le monde, trucidaient les gens. Donc, on avait des bébés découpés et tout ça en bocaux. Et c'était assez fort. Là,
j'ai pas eu ça. Il y avait aussi des pieds moi, je me souviens au musée d'histoire naturelle à Paris, quand il était encore au Trocadéro, ouais. Il y avait dans un bocal un pied d'une femme chinoise avec pied tourné. Oui. Cassé, embaumé, dans du formol, dans un bocal. Ouais. Donc ça, il y a toujours eu. Mais ce que tu n'as pas dit quand même, quand tu nous as parlé de l'exposition, là, c'est que ce sont des vrais corps.
Oui. Ah oui, ce sont des vrais corps. Alors, d'après leur site web, j'en crois que ce que je vois, d'après leur site web, donc l'allemand.
Tu vas nous parler de la technique.
Je vais vous parler de la technique. Ouais. Alors la technique vient de Gunther von Hagens. C'est un Allemand qui est né en 45. Il est anatomiste et puis il est l'inventeur de la plastination. Alors qu'est-ce que c'est la plastination? C'est tout bête. C'est aussi appelé en français imprégnation polymérique et c'est une technique visant à préserver les tissus biologiques en remplaçant les différents liquides organique par du silicone. Donc c'est plus vraiment le vrai corps en fait, c'est le vrai corps mais siliconé.
À la base c'est une personne.
Ouais. À la base c'est une personne. S'ils sont obligés, ils prennent une vraie personne, donc un vrai cadavre. Mais il faut savoir les enfants que la médecine n'avance que parce qu'on fait des dons de notre vivant quand on est mort. C'est-à-dire que moi, sur ma carte de conduite, j'ai marqué je suis donneur. Oui, j'ai un accident de voiture, mon corps, mes yeux, ils s'en vont à la médecine.
Alors, parenthèse, excusez-moi, en tant que Français, ça ne sert à rien d'être donneur.
Pourquoi ?
Moi aussi, j'étais donneur parce que si on était en France à l'époque de la vache folle, aucun de nos organes ne sera prélevé et donné.
Oui, j'ai appris donc ça
on finit plutôt dans le labo de la fac de médecine. Quoi.
Oui, mais ça sert quand même.
Ça sert quand même.
On ne fait pas don des organes, on fait don de
corps. Nos organes ne seront pas placés pour aider quelqu'un d'autre.
Ah oui,
en tant que Français,
faut passer et
manger de la vache folle.
C'est tous les Européens avant 87.
Oui.
Donc, comme nous sommes nés bien avant 87.
On ne peut pas donner notre sang, nous aussi.
Non, je ne peux pas. J'ai essayé trois fois et à chaque fois, c'est même histoire.
Mais oui, non, c'est pas la peine.
Il reste.
À partir de quel âge on peut donner son sang, vous savez, ou pas? Parce que mon fils m'a posé la question, j'étais bien
d'accord
avec lui.
C'est une bonne question.
Il a 13 ans, il voulait, je lui dis, écoute, j'en sais rien.
À mon avis, peut-être à 13 ans, oui, peut-être, je sais pas. Mais peut-être qu'il faut être majeur et vacciné.
Aucune idée.
Ok, bon, on cherche.
À mon avis, si tu viens tout seul, faut peut-être que tu sois majeur. Ouais. Si tu viens avec papa, maman, peut-être qu'il y a une dérogation. Si papa, maman signe, j'en sais rien. J'en sais rien du tout.
Je sais pas, parce que ça dépend aussi de la quantité qu'ils doivent prendre, quoi. C'est quand même beaucoup pour un enfant.
Ah oui, c'est vrai.
Déjà pour un adulte, ça.
Déjà pour un adulte.
Ils adaptent les quantités. Enfin, je vérifierai. Il est possible que ce soit plus tard.
Enfin, je sais que j'avais donné, moi, bizarrement, aux États-Unis quand j'avais 19 ans. Donc, ils s'en foutaient de la vache folle. Ils n'y avaient jamais entendu parler. Ouais. C'est il y a longtemps. Et c'était juste après la vache. Donc, aux États-Unis, j'ai donné en 91. Oui, donc, tu vois.
Pour parler de ce dont tu parlais, en fait, de dissection, etc., des progrès de la médecine. La grosse différence, c'est que quand ce sont des médecins qui étudient les corps, ça avance à quelque chose. Quand c'est toi ou moi, quand c'est un quidam qui voit ça, on ne va pas faire avancer la médecine.
Hein. C'est du voyeurisme.
Ça peut être du voyeurisme, effectivement.
D'accord. Ouais. Il y a une partie de ça, je suis complètement d'accord. L'autre partie, c'est que j'ai entendu beaucoup d'enfants aujourd'hui et d'autres enfants. Il y a beaucoup d'écoles qui y vont à cette exposition. Et j'entends beaucoup d'enfants qui sortent et qui disent j'ai envie d'être médecin ou chirurgien maintenant. Donc ça peut inviter aussi bizarrement, moi étant français, l'autre côté, c'est que je me suis aperçu, pour moi il y a rien de choquant parce que je cuisine, je fais de la cuisine avec des foies, des petits cœurs, des gésiers, laissez-moi finir deux secondes, et bizarrement j'étais un peu choqué à contre-choc, c'est-à-dire que moi, mon choc, c'était pas de voir des corps et des foies et de tout ça. Il y avait beaucoup de gens, des jeunes gens, 20 ans, 30 ans, qui sont... Et moi, j'ai dit, c'est un cœur, il est disséqué. Si tu manges du poulet ou du mouton ou du bœuf, c'est la même bidoche, quoi. Mmh. C'est le même cœur, c'est presque la même forme. Si tu es un cochon, c'est la même taille. On a la même... Tous nos organes internes, c'est à peu près les mêmes qu'un cochon. Le DNA du cochon et le DNA humain est très très proche, à part les singes, il n'y a pas grand chose de plus proche que ça. Donc je me dis, attendez les gars, et en fait, c'est
parce que c'est la sensiblerie, c'est
culturellement, le côté anglo-saxon et puritain anglo-saxon se retrouve ici, alors que le côté franco-italo-espagnol, à mon avis, où on mange beaucoup, on tue les animaux, à mon avis, le côté dissection est moins choquant pour moi, en plus parce que je cuisine. Donc je fais des petits cœurs, je fais des trucs comme ça. Donc ça ne m'a pas interpellé plus que ça.
Vite fait, je suis d'accord sur le côté éducatif, je suis d'accord sur le fait qu'on manipule de la viande. Ceci étant, ma question est-ce qu'on a besoin de mettre en exposition le corps d'une personne avec la technologie qu'on a aujourd'hui? On peut reproduire au millimètre près, décomposer, recomposer, de toute façon, sans avoir à mettre en exposition et faire du voyeurisme sur le corps d'une personne.
Je suis d'accord avec toi.
Au Beaux-Arts, on avait une sculpture en plastique qu'on appelle ça un écorché, parce que des écorchés, ça a servi aux artistes depuis Michel-Ange, c'est comme ça qu'ils comprenaient comment le corps fonctionnait, et c'est comme ça qu'ils étaient capables de dessiner des muscles. Donc on en avait un au Beaux-Arts, mais c'était en plastique. On pouvait enlever les muscles, on pouvait remettre les muscles, je ne vois pas la nécessité de mettre un vrai corps d'une vraie personne.
Je suis tout à fait d'accord et j'ai pensé ça pendant l'exposition.
C'est une question éthique.
J'ai pensé ça aussi, mais je me suis dit, ce mec-là, il a inventé ça donc en 77, donc c'est l'anatomiste Günther von Hagen, et il a commencé à exhiber, on dit comme ça
En l'occurrence,
on a exposé ses corps en 86, sa première exposition en 86. Il y a plus de 40 millions de personnes qui ont vu l'une des 4 ou 5 expositions dans le monde. Donc il y a beaucoup de gens qui sont soit intéressés, soit qui y voient. Est-ce qu'il y a du voyeurisme? Oui, comme dans tout. Est-ce que c'est de l'art?
Il y a une des expositions qui a été présentée comme une exposition d'art. C'est celle que j'ai vue à Berlin en 96, si mes souvenirs sont bons. Je vais raconter mon expérience parce que ça a été quelque chose d'étrange pour moi. Je suis rentrée sans savoir qu'il s'agissait de vrais corps, en fait. Donc je suis rentrée dans l'exposition, j'étais avec un ami allemand. Et donc au début, parce que effectivement la plastification est très bien faite, on croit crois que ce sont des modèles en plastique. Et en fait, au fur et à mesure, j'avançais dans l'exposition, et on le voit d'ailleurs sur l'image de ton catalogue ici, je voyais qu'il y avait des aspérités dans les poumons qui ressemblaient un peu à de la viande. Et donc j'ai compris au fur et à mesure qu'il s'agissait de vrais corps. Et je me souviens de ce sentiment étrange. Avec mon ami, on était de plus en plus collés l'un contre l'autre au fur et à mesure où on avançait dans l'exposition. Parce que tout d'un coup, j'étais plus entourée d'une explication de ce qu'était le corps, j'étais entourée d'êtres humains morts. Et là, ça a posé une question sur l'humanité, sur tous ces gens qui étaient là, est-ce qu'ils avaient envie d'être là, etc. Et alors, tu parlais du côté français, et justement, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les expositions de ce mec-là ont été interdites en France. Et j'aimerais bien vous lire juste l'article qui est dans le Point à l'époque. En tout cas, le départ. Et c'est assez intéressant parce que le côté bidoche, effectivement, pour un Français, est moins choquant.
En revanche,
le côté éthique, qui gêne certainement moins les anglo-saxons, pour qui gagner de l'argent n'est pas un problème,
gêne plus le français.
Ouais. Alors donc je vous lis l'extrait du Point. A-t-on le droit de tirer profit d'une exposition de cadavres? Parce que bon, à l'arrivée, c'est quand même ça. La Cour de cassation a tranché ce jeudi. Donc ça, c'était en 2009. La Cour de cassation a tranché ce jeudi, l'exhibition de cadavres humains à des fins commerciales est contraire à la décence et de ce fait illégale en France. Ce jugement confirme l'interdiction de l'exposition Our Body à corps ouvert, proposée par la société Encore Events et mettant en scène 17 cadavres humains d'origine chinoise, plastinés, ouverts et disséqués afin d'évier le grand public au fonctionnement de l'anatomie humaine. Cette décision met un point final à la bataille judiciaire qui opposait depuis avril 2009 la société organisatrice et deux associations. Ensemble contre la peine de mort et Solidarité Chine. Marie Holzmann, présidente de Solidarité Chine, se réjouit de la nouvelle. Pour moi, cette victoire, c'est une victoire de l'humanité contre une forme de barbarie, déclare-t-elle. Transformer des corps en objets et les mettre dans des positions grotesques, parce qu'alors à l'époque, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, hein, tu disais, mais alors, les positions, par exemple, dans l'exposition que j'avais vue, il y avait une femme enceinte qui pose comme si elle était un top modèle, quand même. Donc, c'était ultra choquant. Il y avait deux personnes en train de faire l'amour, enfin, l'un sur l'autre. Donc voilà, il y avait quand même des positions qui étaient super choquantes. Certains jouaient aux échecs, d'autres faisaient du vélo. C'est contre le droit et la morale. Présentée dans de nombreux pays, l'exposition Our Body avait débarqué à Paris le 12 février 2009 après un passage par Marseille et Lyon. Donc voilà pour le
côté. Donc bizarrement, ça a été quand même exhibé, mais
ça a été stoppé.
Voilà,
ça a été stoppé parce qu'il y a justement. Alors suivant le même, le deuxième. Alors donc ça c'est le premier problème qui gêne certains. Quand gêne pas d'autres. Hein. Mais bon, moi je sais que mon expérience personnelle dans cette expo, ce que j'ai ressenti et le fait que ça a été interdit en France, pour moi les deux sont liés, c'est-à-dire que ça m'a... Et pour me choquer, il faut quand même se lever tôt, quoi. Mais là, c'était autre chose. C'était une sorte un manque d'empathie, en fait, pour les personnes, pour ces corps-là.
Parce qu'il y a est-ce qu'on connaît leurs noms?
Non, c'est
pas... Est-ce que leurs noms sont présents?
Ça, c'est bien expliqué.
Deuxième chose, ils en parlent beaucoup parce que, notamment, cette exposition, donc celle que tu as vue, certainement, Australie, donc ça, c'est un article du Guardian qui date du 24 avril 2018, donc ultra récent. Ouais. Hein. Et donc, l'exposition a été permise, elle est autorisée en Australie, mais par contre, un groupe d'avocats, d'universitaires et de défenseurs des droits de l'homme ont demandé au gouvernement d'arrêter cette exposition et ont demandé en tout cas. Parce qu'ils disent, en fait, eux, ce qu'ils affirment, c'est qu'ils pourraient être, certains de ces corps pourraient être des prisonniers politiques, des camps de prisonniers politiques chinois.
Oui. Et voilà le problème.
Effectivement, ce qui s'est passé, donc moi, j'ai pas mal lu sur le sujet, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a eu des preuves, certaines preuves, mais qui n'ont jamais été convaincantes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gouvernements ont dit, bon, ok, c'est bon, même si en fait il y a des permissions, mais elles ne sont pas absolument pas liées à ces corps-là. Je ne sais pas non plus quelle est la précision des permissions. Est-ce qu'on permet à son corps d'être exposé? Est-ce qu'on permet à son corps d'être exposé dans une situation ridicule? Est-ce qu'on permet de faire de l'argent sur le corps?
Il n'y a pas de papier là-dessus, voilà. Ni sur le site.
La femme enceinte en question, pour moi...
Il y a un problème de profit aussi.
Il y a un problème énorme sur le profit. Ça, c'est quand même assez... Donc voilà, ça soulève éthiquement un très, très, très grand nombre de questions.
Parce que, en comparaison... Il y a un autre projet qui a été fait qui s'appelle le Visible Human Project. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, c'est la même situation de base. Un prisonnier aux États-Unis qui s'appelle, alors on connaît son nom, Joseph Paul Jernigan, a donné son corps à la science. Mais il s'est mis en quête de faire quelque chose de spécial et donc il s'est mis en contact avec toute une équipe scientifique et il a donné son corps à la science et le projet a été de, après son injection létale oui. En français aussi, oui, létale. Bref, après
mortel,
son après son injection, donc il a été condamné à mort, il a été tué,
exécuté.
Voilà, avec une injection et tout de suite son corps a été transféré à cette équipe qui l'ont tranché en fines très fines tranches de micromillimètres et donc ils ont scanné chaque tranche et il est visible maintenant en 3D. D'accord. C'est en ligne pour les étudiants. D'accord. Et on peut observer les artères, les plus petites choses, l'intérieur du foie, en 3D, les bouger, les monter, regarder à l'intérieur, etc. Et là, ça a une proportion, éducation, ça a une
éthiquement, ça tient la route.
Ah ben complètement, parce qu'il était tout à fait d'accord, c'est venu de lui, il savait ce qui allait se passer. Et surtout, il n'y a pas de profit fait sur son corps. C'est gratuit. N'importe qui peut le consulter en ligne. Il y a un wiki là-dessus. Les étudiants l'utilisent pour travailler. Les médecins l'utilisent pour montrer des choses. Et il y a eu depuis aussi une femme. Donc, il y a un corps d'homme et un corps de femme qui ont été faits comme ça. Mais c'est pas fait pour l'exposition. Je veux dire, les gens peuvent le regarder en ligne. Mais c'est pas fait pour faire de l'argent. C'est pas fait pour faire de l'exhibition. Il n'est pas mis dans une situation où il pose dans une pose bizarre ou quoi, ou c'est vraiment
il y a un respect de la nature humaine tout simplement
éthique.
Ah, oui. Et le Günther en question, il y a une photo où il fait le con derrière un décor.
Oui. Dis, ça paraît assez troublant.
Je dis, c'est quand même il y a un manque d'empathie chez ce mec qui est énorme. Alors il peut avoir un esprit scientifique, jouer bien, etc. Mais on sent que c'est quelqu'un. Il a pas mal joué sur la controverse et sur la provocation. Hein. C'est un mec du Nord, ils aiment bien ça. Mais ça se fait souvent dans les pays nordiques. Ils ont pas peur de. Ils ont. Ouais.
Il y a un attachement au corps assez différent du pays.
Pareil. Ils ont aussi une façon un peu plus noir et blanc, on va dire, de moins sentimentale que nous latins d'aborder la question. Mais on sent chez cet homme-là un manque d'empathie totale. Et c'est tout un ensemble qui fait que c'est un peu gênant. Alors, on parlait aussi d'autres façons d'éduquer les enfants. Il existe notamment, maintenant, il existe un moyen virtuellement de rentrer dans les organes.
Tout à fait.
Alors,
oui.
Ça, c'est fantastique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen, il y a tout à fait moyen de connaître le corps humain sans avoir à. Quel est l'intérêt d'avoir un vrai corps ? Exactement ce que tu posais comme question.
Plus
pourquoi
maintenant,
faut-il que ce soit un homme
Il y a 200
ans,
je me suis posé la même question.
Il y a 200 ans, c'est tout ce qu'on avait.
Même pas,
avec la technologie d'aujourd'hui.
Jusqu'à il y a 10 ans, oui. J'aurais dit. L'imprimante 3D ça n'existait pas il y a 10 ans, l'imagerie 3D ça existait mais pas aussi bien que maintenant, mais j'avoue que maintenant je me suis dit la même chose que vous à la fin de l'exposition, je me suis dit, c'est assez bizarre parce que je me suis aussi posé la question de la gratuité, c'est-à-dire, je me suis dit c'est assez bizarre parce que je suis sûr qu'il y a des organismes tels que les
facs
de médecine, 75 pour 4 personnes, pour une famille de 4. Donc c'est pas énorme hein, par rapport à d'autres choses, on n'a pas payé $200, mais donc je me suis pas posé la question du profit bizarrement, mais je me suis posé la question, c'est vrai que maintenant les facs de médecine, tout ça, je suis presque sûr qu'elles doivent travailler beaucoup en 3D, machin, tout ça.
Ils travaillent aussi avec des cadavres, mais ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un étudiant de médecine, ça va être son travail. C'est-à-dire que les trois quarts des gens qui regardent ça, mais pas les trois quarts, la majorité des gens qui regardent ça ne sont pas... sont des gens comme vous et moi qui regardent. Et donc, effectivement, il y a...
Alors, les étudiants de médecine, donc là, j'en parle avec un petit peu de connaissance parce que le fils de mon conjoint vient de devenir médecin et il est maintenant dans un programme pour devenir chirurgien. Il y a une éthique très forte. On ne fait pas n'importe quoi sur un cadavre en école de médecine. Tous les films qu'on a vus où ils font des trucs sur des cadavres, c'est de la gnagnote. C'est, ça n'a rien à voir avec la réalité de l'éthique d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui.
Oui. Ils n'ont pas d'autres moyens pour apprendre à opérer
sur des vrais corps.
Il faut découper. Voilà. C'est voilà. Par contre, pour étudier l'imagerie 3D comme le
non, il y a beaucoup de médecine suffisent. Maintenant, il faut qu'ils apprennent à voir par rapport à un microscope qui va dans un tube et c'est de la télé en fait. C'est de la microchirurgie. Il découpe plus rien. C'est un robot qui pilote le robot. Il y a beaucoup
et
de chirurgie
comme
ça.
Je sais pas si quelle est son expérience, mais quand on parle avec les médecins, ils disent que la première fois qu'ils sont en contact avec un cadavre, c'est pas anodin quoi. C'est quelque chose quand même un moment assez fort. Surtout qu'ils se retrouvent avec, ils ont en général un casier avec une jambe avec laquelle ils vont travailler. Ils disaient surtout de voir les membres séparés en fait. C'est quelque chose. Ouais. C'est pas évident. Ils apprennent.
Ça dépend. Il y a des gens qui. Ma femme est optométriste, donc elle a fait sa première année de médecine et donc elle a fait des dissections et elle me dit. T'as un peu tout le genre humain est représenté dans les étudiants, donc t'as l'étudiant qui va tomber dans la pomme, dans les pommes, t'as l'étudiant qui va rigoler comme un fou, mais en fait c'est de la contre-rigolade, t'as l'étudiant qui va pleurer, et t'as l'étudiant qui va être, Jen m'a dit, moi j'étais plutôt détaché et assez souriante, parce que j'étais excité de voir mon premier corps humain, d'aller travailler dessus quoi. Elle a dit que c'était très impressionnant, mais elle m'a dit que pour elle c'était naturel et que elle ça lui a pas posé trop de problèmes ni mental ni moral, mais elle a dit sur 30 étudiantes t'as tout l'échelon humain et c'est un peu ça que j'ai vu aujourd'hui dans l'exposition j'ai pas vu les gens ont progressé linéairement assez facilement, mais c'est dans les petits commentaires que j'ai entendu les gens un peu le côté bidoche, s'il y en a ça les contrarie, c'est comme de la viande,
c'est de la viande.
Le côté moral, donc le côté mais est-ce qu'ils ont donné permission, une dame qui parlait avec son conjoint, donc j'ai un peu entendu un tout petit peu tout ça.
Ça soulève des questions.
Quelque part je me dis est-ce que c'est le meilleur moyen de le faire, de poser ces questions. Je suis pas sûr non plus, je suis un peu comme vous, dubitatif. Comme on sait les progrès de la technique maintenant, surtout l'imprimante 3D, mais en même temps, je me dis, quelque part, ça a peut-être sa place. J'aimerais pas qu'il y ait 200 expositions comme ça dans le monde entier. S'il y a quelque part où ça, je me dis, ça deviendrait d'autant plus que j'ai aussi lu j'ai lu deux choses. Une des choses qui m'a rassuré un petit peu, c'est que les Californiens ont fait et Chicago, donc Mississippi. Chicago, c'est l'état de
Iowa.
Oh, c'est pas grave. Iowa, Idaho. C'est pas grave. Donc ces deux états ont à chaque fois qu'il y a une exposition de Body World, ils vont devant un comité interreligieux, intermachin, d'éthique, et qui passe des mois à revoir les corps, les papiers.
Et les lois.
Et les lois locales ou interstate. Et il y a un rabbin, il y a un curé, il y a le côté œcuménique, il y a des docteurs, il y a des chirurgiens, et puis il y a des psychologues. Et donc ils font ça pendant des semaines, et ils donnent leur rapport, et par deux fois sur 20 années, de 2004 et 12 ans plus tard, 2016, ils ont reconduit le « oui, vous pouvez », parce que l'exposition est sur... le corps humain, les bienfaits de la diète,
machin. Mais ça, c'est sur le site de Body World que tu as trouvé ces infos.
Et ailleurs en recherchant, d'accord, oui. Donc, il y a des...
Moi, je me souviens que...
Il y a un côté moral
Berlin,
qui est revu par
il y avait des
d'autres.
Religieux. Alors bon, on sait pas à quel point, si c'était des extrémistes ou quel genre, si c'était les mêmes qui font les trucs anti-avortement, je sais pas si... Mais tu as des... moralement, etc. Je sais pas si au niveau, tu vois, de Rome, par exemple, je me méfie un petit peu de la... Bon, et ceci étant, en plus, le côté religieux, c'est encore autre chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que ça concerne pas tout le monde, c'est pas...
Oui, ça, bah, ça techniquement, les rabbins, les prêtres sont les gardiens de nos morales aussi, techniquement.
De morale de communauté, parce que tu peux ne pas appartenir à aucune religions.
Ouais. Enfin, 90% des gens appartiennent à une religion.
Il y a pas mal d'athées quand même. Regarde en France, par exemple, on est pas mal d'athées. Hein.
Non, on a des non-pratiquants.
Oui,
les statistiques, dans le census, je les regarde toujours, ça me fait un peu rire. Les Français, surtout, disent « Oui, je suis croyant, mais je vais pas à l'église. » Il y a combien de pourcents qui vont pas à l'église? 70% vont pas à l'église, mais il y a 80% de croyants,
90%.
Oui, c'est assez bizarre. On est 90% de croyants, mais on est que 30% allés à l'église. Ouais. Je fais bon, bah tiens. C'est assez rigolo. Enfin, c'est la France. Mais en Nouvelle-Zélande, les chiffres se rapprochent et rapprochent. Il y a beaucoup plus de croyants et de pratiquants en Nouvelle-Zélande qu'en France. Je ne me rappelle plus des statistiques. Mais c'est assez fort. Toutes les 5-10 ans, les nombres descendent. Les pratiquants descendent dans tous les pays du monde. Quelle que soit la religion d'ailleurs, c'est pas que les catholiques. J'apprécie le côté.
Scientifique, tu veux dire
Oui, j'ai apprécié le côté scientifique. J'ai apprécié le fait que c'était, ils ont martelé le côté manger sain, buvez moins, fumez pas, faites du sport, voilà. L'un des trucs qui m'avait choqué aussi, c'est que donc ils font à partir d'un organe sain et donc un organe pas sain, ils mettent en évidence une maladie. Donc ils ont mis évidemment le cancer des poumons, donc il y a un côté cancer. Donc après ils font la leucémie, tout ça. Et ils ont fait le côté maladie de peau, d'autres maladies. L'obésité, avoir trop de sucre, le diabète, etc. Donc il y a des panneaux donc le côté sain et le côté pas sain. Donc le côté pas sain, c'est une des maladies. Mais bizarrement, il y a un tout petit bout, et je ne sais pas si c'est le côté anglo-saxon ou puritain qui est revenu ici, mais il y a à la fin, il y a une toute petite table où il y a les organes reproductifs de madame, les organes reproductifs de monsieur, mais ils sont disséqués, tout petit bout. Et puis, c'est tout. Et on parle juste de grossesse extra-utérine et puis de des polypes et des trucs comme ça. Mais c'est juste un tout petit bout, mais il n'y a pas de côté... justement, moi, je me suis dit, c'est bizarre qu'ils ont manqué le côté sexuel et ils font... manger, boire, dormir, le stress, ils font tout ça, mais donc au niveau du stress, ils parlent de être heureux, balancer sa vie, machin chose. Mais pourtant, il y avait pas du tout de côté sexuel du tout. Et quelque part, pour moi, c'était bizarre. Je dis, tiens, c'est des corps où, oui, il y a des zizi et puis il y a des
seins. Ah oui, il y a quand même l'appareil génital.
Il est laissé, mais il y a aucune mention de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à quoi ça sert, comment ça fait, comment ça fonctionne du tout. Il y a à quoi sert le poumon, à quoi sert le... Et donc j'ai dit, tiens, c'est bizarre, est-ce qu'on a enlevé ça de l'exposition pour que ça ne gêne pas les...
Ça fait un peu de poids de mesure.
Pour ça.
On n'a pas de problème à se faire de l'argent sur le corps de quelqu'un qui a peut-être ou peut-être pas donné son consentement, son consentement, mais on ne va pas parler cul.
Ouais, ouais.
C'était ça qui je me suis dit, tiens, c'est bizarre.
C'est commercialement, on sent que c'est une grosse opération commerciale parce que
ça reste discret le côté. Ils ont un partenaire qui est une assurance vie, je crois. Donc il y a une assurance vie, il y a le Hilton autres. Ça m'a fait un peu bizarre.
Un hôtel, c'est étonnant. Hein. T'as des affiches partout. Ils ont communiqué largement auprès des écoles. On sent qu'il y a un travail de.
Oui.
Ils savent se justifier parce que ça fait des années qu'ils ont des problèmes.
J'ai appris que ça existait cette exposition par un copain de mon fils qui va dans une école intermédiaire. Ils ont déjà visité la semaine dernière. L'exposition va jusqu'au mois de juillet, hein, c'est jusqu'au 15 juillet, donc ça va être très longtemps s'il n'y a pas de pétition. quelqu'un
je pense
qui,
pas qu'il y en aura,
quelqu'un
parce que
qui va y mettre
que,
le feu.
Je crois que politiquement, la Nouvelle-Zélande n'est pas tellement
assez neutre en fait.
Bah,
les gens, les gens marchent pas dans la rue pour un oui pour un non ici.
Non, ils s'écrasent un peu.
Ils s'écrasent un peu. Donc,
à
mon avis, ça va.
C'est marrant ce qu'on disait, les problèmes d'éthique, tout ça. Je crois que dans le monde anglo-saxon, faire de l'argent, c'est pas un mal. Alors qu'en France, c'est toujours un peu teinté. Alors quand c'est en plus une question morale, d'autant plus que la France est quand même, je pense, la France se sent comme un peu. C'est quand même le pays des droits de l'homme au départ. Il y a quand même quelque chose, il y a quand même un attachement très fort à ce genre d'éthique-là en France. Quoi. Je pense
Il faut être un peu anti en France. Si t'es pas anti, aussi. T'es pas cool. Oui. Donc, et je comprends ça. En même temps, oui, c'est vrai que ici, la prostitution, c'est légal. En France, ça l'est pas, etc. etc. Donc il y a beaucoup de rapports au corps et à la morale qui est complètement différent ici.
Mais là, on est quand même sur un autre, on est dans un autre, dans un complètement, on est dans un autre domaine différent.
C'est pas pareil parce que c'est l'utilisation du corps pour de l'argent, la prostitution, l'utilisation d'un corps pour de l'argent techniquement le.
Non, mais l'histoire de la prostitution, le problème de la prostitution, c'est qu'il y a.
La prostitution n'est pas légale. La prostitution dans une entreprise qui protège les employés est légale.
Non, la prostitution est légale en Nouvelle-Zélande.
Oui, mais une prostituée dans la rue se fait ramasser par la police.
Ah oui. Oui, tout à fait.
C'est pas légal dans ce sens.
C'est légal, mais c'est légiféré. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui te dit où la faire.
Protégé.
En gros, il y a une hypocrisie de partout. C'est-à-dire qu'en France, par rapport à la prostitution, il y a une grosse hypocrisie. C'est-à-dire que les femmes ne sont absolument pas. La femme et les hommes, d'ailleurs, ne sont absolument pas protégés dans ce métier-là.
Non, pas de sécu, pas protégés.
Ils sont taxés quand même, en plus. Hein. Il y a quand même des.
Si tu déclares et que tu gagnes plus que.
Non, sans déclarer, j'avais entendu parler d'une. Enfin, bon, je ne connais pas assez le sujet pour pouvoir en parler ici. Mais oui, il y a une. De même que tu dis avec la sexualité dans le monde anglo-saxon, où il y a une espèce de. Là, avec la prostituée en France, il y a vraiment une hypocrisie énorme.
Bah surtout quand nos politiques s'y donnent à cœur et joie ou vont en Belgique pour le faire.
Oui, oui.
Enfin, bon.
Donc, je
ne fais pas la pub. Ça m'a paru pas trop mal fait. C'est rapide, 1h30, on sort. Il y a des choses à apprendre. J'ai appris que le muscle de derrière de la jambe, ça s'appelle le biceps de la jambe. Je crois que les biceps.
Il y a besoin de voir un canard pour savoir ça.
Je croyais que le biceps, c'était que dans les bras. Moi, on parle toujours des biceps des bras. Mais en fait, j'ai appris plein d'autres choses. Alors, j'ai vu mon premier l'appendice, mais hors du corps, mais jusque c'est disséqué. Mais et l'appendice est tout petit. C'est comme un. Parce qu'on voit, on a toujours des pensées que l'appendice, il explose et que c'est gros. Que c'est petit, mais que c'est gros. Et en fait, c'est tout minuscule, c'est comme un petit ver. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que c'est plein de bactéries qui aident à la digestion et à finir tout ça. Je croyais que c'était un truc qui servait à rien parce que tout le monde le coupe. Donc, mais en fait, oui, ça sert à quelque chose. Enfin, on apprend quand même quelques petits trucs. Donc, est-ce que je le conseille? Si vous êtes pas pour, n'y allez pas. Mais il y a plein de gens qui étaient dans la queue, donc j'imagine que ça va faire un tabac. Quelle musique? C'est toi ou c'est moi?
Je vous ai préparé Malik Judy, donc une deuxième chanson de son album 1, qui est sorti en octobre 2017. Et cette chanson s'appelle Sous Garantie. Elle démarre tranquillement. Ne vous inquiétez pas.
Ça vient tout seul.
Ouais,
presque bientôt. On met le téléphone à fond.
Non, mais c'est.
Bon, on va meubler quand même. Pendant que ça commence, ou que ça commence pas.
En fait, ça commence mieux quand on a le bon bouton.
Ah, c'est ça.
C'est ça aussi. Voilà. Pas besoin d'attendre des heures pour. Désolée, j'avais le mauvais mouton.
Mouton ou bouton?
Mauvais bouton. Oh, bah, je ne parle plus non plus. Là,
on s'en garantit.
On va voir qu'en Nouvelle-Zélande, ça passe.
Ça fatigue.
Moutons,
le mauvais bouton.
C'est un peu techno, je disais, un petit peu. Hein,
mauvais mouton.
J'aime bien le clavier, hein, le clavier électronique, un petit peu. Un peu Jean-Michel Jarre, un peu.
Oui, c'est vrai. Il y a une influence électropop. Mais je vous conseille l'album, il est vraiment très bien. Je pense qu'on va entendre parler de Malik dans les années à venir.
Bon, puis c'est international comme musique, c'est pas trop. Tu il est franco.
Ben c'est marrant parce que je lisais.
Vietnamien, mais sa mais musique.
Je lisais une critique sur Les Un Rock, et il disait que depuis qu'il est passé, donc il a arrêté ses groupes en anglais et qu'il est passé à chanter en français, il risque d'avoir une audience plus grande au bout du compte.
Bizarrement.
Parce que, on n'a pas besoin de connaître. Dans l'article, il disait qu'on n'a pas besoin de connaître la langue de Michel Houellebecq pour aimer la musique, et la musique en elle-même est très bonne, et le fait qu'il y ait des paroles en français, ça risque de plaire aux anglo-saxons. Et donc, il lui prévoit un bel avenir.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de paroles non plus, hein, c'est pas une chanson à texte, quoi.
Non, pas vraiment, non.
Tu disais que ça te faisait penser à Vincent Tellier. Moi, je connais un chanteur qui s'appelle Sébastien Tellier.
Ah oui, non, bah c'est Sébastien,
en fait.
Ah oui,
d'accord, ok. Non, parce que je me suis dit, ça m'a fait penser à lui, justement. Donc, je veux dire, il y en a
peut-être
deux.
Non, c'est
son cousin, Vincent et Sébastien, son cousin.
Je écoute à mon mari qui est un grand fan de Sébastien Tellier, donc
oui. Mais c'est dans la même, voilà. Voilà. Sébastien Tellier, tous ces gens-là, électro, voilà. Donc je vous recommande, l'album est bien et j'attends son deuxième album avec impatience.
On passe de la musique du corps à la musique de l'âme.
De l'âme. Alors
avec Olivier
Sacks, c'est l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, et justement je disais c'est amusant parce que pour moi le Günther von machin, et je le trouve qu'il est très il manque d'empathie, d'humanité, et Olivier Sacks c'est exactement l'inverse, c'est un homme avec une grande humanité, et voilà, je trouve que c'est quand même la différence. Donc pour le alors il a écrit L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, c'est un livre qui est très connu, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Tu me disais que vous en avez peut-être tu me disais que vous en avez peut-être parlé au moyen 5-6 ans,
peut-être. Je me sais qu'il y avait un épisode soit télé soit un film dessus, parce que ça touche aux maladies mentales. Après il y a un passage
les troubles neurologiques, en fait, dans le cerveau, et leur réaction. Alors, je vais vous parler d'Olivier rapidement. Olivier Sacks, il est né le 9 juillet 1933 à Willesden, à Londres. Il est mort le 30 août 2015 à Greenwich Village. Et donc, c'est un médecin, neurologue et écrivain, alors britannique, même s'il il vivait à New York. Il a été professeur à l'Université de Columbia et médecin consultant dans de nombreux hôpitaux new-yorkais. Il a écrit plusieurs ouvrages sur différents cas cliniques qu'il a rencontrés au cours de sa carrière. Et il a atteint une notoriété mondiale grâce à ses œuvres de vulgarisation. Et donc, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, c'est un livre que tout le monde peut lire. Il y a quelques termes qui sont des termes de neurologie, etc. Mais en tout cas, on comprend très bien. Moi qui ne connais rien à tout ça, je comprends bien. Je suis une passionnée du cerveau, donc inutile de vous dire que ça m'a plu énormément. Et alors, le ton du livre, on a l'impression de lire du Stefan Zweig, je trouve. C'est écrit sur un ton de récit qui est vraiment agréable à lire, et on sent une vraie empathie pour l'être humain, et surtout il pose des questions un petit peu profondes, et c'est pas quelque chose de purement scientifique, il fait le lien entre plusieurs domaines, je trouve. Alors oui, le titre original, donc nous on l'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, mais en anglais c'est The Man Who Mistook His Wife for a Hat, et donc il a été publié en 1985. Il s'agit d'un recueil dans lequel l'auteur décrit les affections les plus bizarres qu'il a rencontrées. Le titre provient du cas d'un homme qui savait reconnaître les objets composés de formes géométriques simples, tel un chapeau, mais pas les visages dont le sien est celui de sa femme. C'est-à-dire qu'il reconnaît les formes géométriques, il peut vous décrire ce qu'il a dans les mains sans vous dire que c'est un livre, en fait, par exemple. Donc l'ouvrage comprend 24 essais répartis en 4 sections. Les deux premières sections se concentrent sur les manifestations provenant de l'hémisphère droit du cerveau, alors que la troisième et la quatrième décrivent des manifestations phénoménologiques, réminiscences spontanées, perceptions modifiées et manifestations remarquables apparaissant chez les personnes dites retardées. Alors retardées, c'est un terme étrange, mais en tout cas qui...
C'est peut-être aussi de 1985, à mon avis, le vocabulaire un petit peu avancé.
Donc, j'aimerais bien vous lire juste le petit paragraphe au départ de plusieurs de DK, parce que ça vous montre tout de suite le ton de la chose. Juste avant de le commencer à lire, je voulais dire, ce livre n'est pas un livre de médecine. Qui nécessite des connaissances en neurologie pour être apprécié, même si on y parle de neuropsychologie, de neurosciences et de neurologie. Donc il explore plutôt la personnalité humaine et sa fantastique capacité d'adaptation. Et donc il s'intéresse plus aux patients en fait qu'aux pathologies. Et puis vient la question de l'âme, tout simplement. Et à plusieurs reprises, ils disent, parce que souvent, il y a des personnes âgées qui sont dans des endroits qui sont, par exemple, dans des hospices catholiques. Et donc, ils parlent souvent avec les sœurs. Ils disent, pensez-vous qu'il a une âme? Par exemple, quelqu'un qui n'a plus aucune mémoire ou qui, sa mémoire s'est arrêtée quand il avait 25 ans. Donc, ils leur posent la question. Et donc, dans certains cas, c'est vraiment très, très intéressant.
Ils hésitent. Mais c'est les autres, c'est pas les malades qui hésitent.
Non. C'est, donc, ils posent la question où, quelle est l'âme? Où se trouve l'âme? Parce qu'on a une conscience. Comment se place la conscience? Quand on a une perception qui est biaisée, puisque certaines parties du cerveau ne fonctionnent plus de la même façon, ou travaillent de trop aussi. Il y a par exemple Tourette, le fameux Tourette, vous savez, on dit des... Voilà. Là, il y a un excès, en fait. Il y a un excès d'impression. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que certains malades, surtout avec certaines maladies, ils veulent garder la maladie. Alors, je vous donne un exemple que je trouve fantastique. Une femme de 90 ans arrive chez lui et lui dit, voilà, j'ai... Tout le monde me dit que je me comporte de façon un petit peu légère pour une femme de mon âge. J'ai pas loin de 90 ans, il paraît que je fais des blagues un petit peu osées, que je suis un peu trop joyeuse, etc. Et elle lui dit, je me demande si c'est pas un moment... Parce qu'elle a, en fait, elle a travaillé dans une maison close quand elle était jeune. Son mari l'a sortie de la maison close et puis elle a eu une vie après de famille, etc. Elle avait attrapé à l'époque la syphilis. Et la syphilis a un effet sur le cerveau à un moment donné. Et elle se demandait si... 40 ans, 50 ans plus tard, c'était pas un effet sur son cerveau si c'était pas un effet de la syphilis. Et là-dessus, lui dit effectivement, vous avez raison. Ils font les examens, etc. Et il dit, vous avez raison. Vous avez un bon diagnostic, en fait, c'est ça. Donc on peut vous soigner. Alors elle lui dit, écoutez, je veux bien que vous arrêtiez la dégénérescence. En revanche, je ne veux pas quitter cet état-là. Je suis désolée, moi, ça me rend heureuse. Je suis bien, ça peut choquer les gens autour de moi. Mais alors donc, ils se mettent d'accord pour travailler ensemble. Ils arrivent à arrêter la dégénérescence, mais pas à enlever les symptômes qui sont des symptômes plutôt bons. Pour elle. Ce que je trouve fantastique, en fait, c'est que tout d'un coup, un problème neurologique devient quelque chose d'agréable pour la personne. Même chose pour une femme qui se retrouve avec une réminiscence, en fait, qui a des chansons dans la tête qui lui reviennent et qui sont, en fait, des chansons irlandaises de sa petite enfance. À 5 ans, ses deux parents étaient morts. Elle a été élevée par une tante un petit peu austère, pas très agréable.
Donc issue d'un trauma.
Voilà, et donc elle avait complètement... Et puis c'est parce qu'elle était petite aussi, 5 ans, avant 5 ans, c'est difficile d'avoir des souvenirs avant 5 ans. Et donc tout d'un coup, ces chansons qui sont obsessives et qui peuvent être très gênantes pour quelqu'un, parce que c'est comme d'avoir une radio dans la tête, en fait.
Oui, c'est Jeanne d'Arc, quoi.
Et donc ils disent qu'elle disait que c'est gênant. En revanche, elle, tout d'un coup, ça fait une connexion avec sa petite enfance. Elle a senti qu'elle était aimée à cette époque-là. C'était en fait les chansons que sa mère lui chantait quand elle était toute petite. Et ce trauma, en fait, ce problème neurologique, tout d'un coup, elle dit, mais je...
Maintenant, c'est
positif.
Voilà,
ça m'a permis de relier, voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il travaille avec ses patients...
Mais qui cherche le bonheur, en fait. C'est, voilà. La solution, c'est pas que la solution du problème.
Tout à fait.
C'est aussi, si t'es quand même heureux, voilà. on va garder heureux.
Même chose avec un autre patient qui a je crois que c'est le syndrome de Tourette. Donc celui où on sort des mots complètement souvent grossiers, où on a des attitudes complètement... mais ça va aussi avec une super activité qui fait que, par exemple, il parle de cet homme qui est très très bon il était très bon au ping-pong, parce que très très rapide, ultra rapide, trop rapide.
Des réflexes.
Et donc du coup... difficile de vivre socialement avec parce qu'il ne pouvait pas trouver de travail, etc. Mais en même temps, à partir du moment où il a pris les médicaments qui ont tout ralenti, il disait, mais en fait, ma vie n'est plus du tout excitante. Il dit, certes, je peux m'adapter socialement, mais tout d'un coup, cette espèce de surexcitation permanente...
Il ne pouvait plus jouer au ping-pong.
Il ne pouvait plus jouer au ping-pong.
Il pouvait plus
gagner.
Alors,
ils ont décidé ensemble qu'il prendrait les médicaments pendant la semaine et qu'il arrêtait pendant le week-end. Et je trouve ça génial.
Il y a plein
quoi.
De gens qui prennent les médicaments pour ADHD, qui font ça, ouais. qui les prennent quand ils ont besoin d'être bien pour le boulot et tout, mais qui les arrêtent voilà. le week-end ou en vacances. D'accord. Et j'ai aussi, malheureusement, par contre, on peut pas faire ça avec les médicaments de bipolaire.
Ouais, ouais.
Mais j'avais une amie en école d'art qui faisait des peintures fantastiques quand elle était pas sous médicaments. Et quand elle était sous médicaments, c'est comme si elle était revenue à 5 ans. Non, elle, c'est comme si elle peignait comme si elle avait 5 ans. Quoi. C'était, elle perdait, elle y rêvait plus.
Ouais.
C'est intéressant.
Ouais, ouais, c'est, assez, c'est vraiment passionnant.
Et donc, les médicaments. Et...
C'est vraiment ce que j'aime dans ce qui.
C'est le contraire des Beatles, en fait. Tu prends du LSD et t'écris Yellow Submarine.
Oui,
mais,
voilà. Ouais. Il parle de drogue aussi, parce qu'il y a une histoire qui est assez tragique. Donc je vais vous lire juste les débuts, d'accord ? Et puis c'est... j'adore. Alors, il y en a un qui s'appelle Au Niveau. Cela fait maintenant 9 ans que j'ai rencontré M. McGregor à la clinique neurologique de Saint-Eustane, une maison pour personnes âgées où j'ai travaillé pendant quelques temps. Mais je me souviens de lui, je le revois comme si c'était hier. « Quel est le problème ?» lui demandai-je. Il se tenait debout devant moi, penché sur le côté. Donc il est penché de côté en fait. Il dit le problème, aucun problème, rien que je sache. Mais les autres n'arrêtent pas de me dire que je penche d'un côté. Ils me disent vous êtes comme la tour de Pise et en plus en un peu plus penché. Un de ces jours vous allez basculer. Mais vous n'avez pas l'impression de pencher. Je me sens bien, je comprends parce que je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. D'ailleurs comment pourrais-je pencher sans le savoir Et donc alors il lui dit ça m'a l'air d'être une drôle d'affaire etc. Donc il finit par lui montrer une photo de lui et il voit, il dit oui effectivement je suis complètement sur le côté, il lui met devant un miroir, il dit effectivement je suis complètement de guingois. Et cet homme là ce qui est fantastique c'est qu'il trouve,
de
des, il trouve des solutions avec ses patients. C'était un menuisier très précis et lui c'est le menuisier qui a l'idée, parce qu'en fait il parle de il précise souvent que ses patients sont très intelligents. Il invente, c'est le patient qui invente ça, il dit j'ai une idée. Parce qu'il dit c'est pas possible, je peux pas rester comme ça tout à coup. Il invente une paire de lunettes avec un fil, avec un poids devant lui.
Ben oui.
Et donc en fait, il se repère sur le poids. Donc à chaque fois qu'il tanche comme ça, il le voit avec son poids. Donc il remet le poids droit. Et le truc qui est très intéressant, c'est que ça devient automatique au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'au début, il a besoin du poids. Une fois, et puis assez longtemps en fait, et de moins en moins il utilise le poids, c'est-à-dire que de plus en plus, automatiquement il se recale. Et donc sa paire de lunettes est devenue super connue dans l'hospice, parce que plusieurs personnes ont eu ce problème-là, et du coup, comme tout le monde a commencé à adopter son poids qu'il pouvait prendre grâce à son travail en fait. Alors je vais vous donner un autre. Et j'aime, voilà, par exemple, Natacha K, femme intelligente, âgée de 90 ans, est venue récemment dans notre clinique. Peu de temps après son 88e anniversaire, elle avait à ses dires remarqué un changement. Quelle sorte de changement, lui avons-nous demandé. Merveilleux, s'exclame-t-elle. J'en étais tout à fait ravie, je me sentais plus énergique, plus vivante, comme rajeunie. Donc c'est le cas dont je vous parlais. Je m'intéressais aux jeunes gens, je commençais à me sentir, comment dire, folâtre. Oui, folâtre. C'était un problème ? Non, pas au début, je me sentais bien, extrêmement bien. Quelle raison aurais-je pu avoir de penser que quelque chose n'allait pas ? Et puis, mes amis ont commencé à s'inquiéter. Au début, ils me disaient « Vous avez l'air radieuse, un nouveau bail avec la vie. » Mais ensuite, ils ont commencé à se dire que ce n'était pas tout à fait convenable. « Vous étiez toujours si timide. Maintenant, vous voilà devenue coquette. Vous riez nerveusement, vous plaisantez à votre âge. Est-ce vraiment correct ? Et vous, comment vous sentiez-vous ? » J'en suis restée interloquée, je m'étais laissée emporter et il ne m'était pas venu à l'esprit de me demander ce qui se passait. Mais ensuite, je me suis posé la question. Je me suis dit, tu as 89 ans, Natacha. Voilà un an que ça dure, tu as toujours été si tempérée dans tes sentiments et maintenant cette extravagance. Tu es une vieille femme, tu approches de ta fin. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette soudaine euphorie ? Et dès que j'ai pensé à l'euphorie, les choses ont pris une nouvelle tournure. Tu es malade, ma chère, me suis-je dit. Tu te sens trop bien, tu dois être malade. Malade, comment cela ? Émotionnellement, mentalement ? Non, pas émotionnellement, physiquement malade. C'était quelque chose dans mon corps, dans mon cerveau qui me rendait euphorique. Et ensuite j'ai pensé, mon Dieu, c'est la maladie de Cupidon. La maladie de Cupidon, répétais-je déconcerté. C'était la première fois que j'entendais prononcer ce nom. Oui, la maladie de Cupidon, la syphilis si vous voulez. J'étais dans un bordel à Salonique, il y a près de 70 ans. J'ai attrapé la syphilis. Beaucoup de filles l'avaient. Nous l'appelions la maladie de Cupidon. Mon mari m'a sauvée, il m'a sortie de là, il m'a fait soigner. C'était avant... la pénicilline, bien sûr. Est-ce qu'elle m'aurait rattrapée après toutes ces années ? Et donc voilà, c'est là qu'il découvre. Mais vous voyez un peu la vivacité de la femme et cette espèce d'échange avec lui.
C'est les patients qui trouvent les solutions.
Patients et surtout, il parle toujours d'eux avec beaucoup de gentillesse et. Alors, une dernière réminiscence dont je vous parlais. Madame Haussé était en bonne santé, quoique un peu sourde. Elle vivait dans une maison pour personnes âgées. Une nuit de janvier 1979, elle rêva de son enfance en Irlande. Un rêve intense et nostalgique, au cours duquel elle entendait des chants et des danses de son pays. Lorsqu'elle se réveilla, la musique continuait très forte et très claire. « Je dois toujours être en train de rêver », se dit-elle. Mais en fait, le rêve était fini. Donc voilà. Et donc, toutes les histoires sont vraiment fantastiques. Alors, il y en a une, est-ce que j'ai le temps d'en parler ?
Vas-y.
Il y en a une qui est un petit peu plus tragique. C'est, je vous lis le tout début. « Donald tua sa petite amie sous l'effet du PCP. » Donc, le PCP, c'est le Dust Angel. Ouais. C'est une... Il ne se souvenait pas ou ne semblait pas se souvenir de son acte. Et ni l'hypnose, ni le test de l'amygdale ne purent libérer le moindre souvenir. Il fallut en conclure par conséquent, au moment de son procès, qu'il n'y avait pas de refoulement de la mémoire, mais une amnésie organique. Une sorte de blackout courant avec le PCP. Les détails du meurtre, mis au jour par l'expertise légale, étaient si macabres qu'ils ne pouvaient être dévoilés en public. Ils furent débattus à huis clos devant la cour. Ni l'assistance, ni Donald, donc ni lui-même, le patient, n'en eurent connaissance. Comparaison fut faite avec les actes de violence parfois commis au cours de crises d'épilepsie des lobes temporaux ou de crises psychomotrices, lesquelles ne laissaient aucun souvenir et ne recèlent pas d'intention de violence. Ceux-ci les commettent et ne peuvent être considérés, etc. Donc ce qui se passe, l'histoire de cet homme-là est assez
c'est une forme d'épilepsie.
Ce qui est horrible, en fait, c'est que il a oublié, donc ils l'ont mis dans un hôpital psychiatrique pour meurtrier, en fait. Et puis tout se passait bien, il a fait beaucoup de jardinage, donc il était bien. Ils ont commencé à laisser partir le week-end, il a fait du vélo, et là-dessus il a eu un accident de vélo, il est tombé sur la tête, et il a commencé à avoir des cauchemars, et les cauchemars, en fait, il a revécu le meurtre. Il a revécu le meurtre et c'était des cauchemars obsessifs et il a compris que c'était le meurtre qu'il avait fait sur sa petite amie. Donc une espèce de truc. Alors ils ont fini par réussir à le soigner ainsi et faire aussi une psychothérapie en parallèle. Mais en fait, il a eu des cauchemars. Enfin, on imagine le cauchemar, c'est-à-dire des cauchemars dont il sait qu'ils étaient réels. C'est-à-dire qu'il a revécu son acte encore et encore. Non-stop.
Oui, là, c'était la torture. Après.
Et là, ça a été de la torture pour lui, même si il avait torturé quelqu'un avant, mais bien sous l'effet d'une drogue. Donc voilà, c'est un livre pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui est vraiment passionnant. Non seulement il est passionnant, et en plus, je trouve que c'est un exemple c'est un exemple en fait d'humanité totale. Encore une fois, que je trouve. Qui se présente.
Il a l'air fascinant ce livre. Hein.
Il est vraiment fantastique et il est merveilleusement écrit par un homme dont on sent vraiment un amour profond pour l'humanité, pour les gens, pour ses patients, un grand respect. Et je trouve que c'est pas mal d'en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est complètement à l'opposé,
oui,
justement.
À l'opposé de ce que j'ai vécu aujourd'hui.
Voilà.
Je suis tout à fait d'accord. On se dit au revoir en 10 secondes. On n'a pas le temps de passer de musique jazz, mais à bientôt tout le monde. Merci Blandine, merci Anne-Sophie. À la semaine prochaine. Je ne me rappelle plus qui c'est.